bonsoir à vous qui nous suivez d'Abidjan, Kinshasa ou même N'Djamena et Kabado avec vous depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique où il est 18h05 en temps universel et 13h05 de Washington, la capitale américaine. 2009, nous y sommes et dans À votre avis, votre émission interactive, je vous cède la parole pour parler des événements marquants dans vos pays en 2018. Comment faire pour que 2019 soit encore une meilleure année grâce à nos résolutions, pourquoi pas? Si vous voulez participer à l'émission, c'est possible. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes en direct pendant près de 30 minutes. Et le numéro est le 001 202 205 26 33. Je répète 001 202 205 26 33. Sur la page Facebook, vous avez été nombreux à laisser vos contacts et à parler en amont des élections qui ont eu lieu dans plusieurs de vos pays, comme au Mali, Madagascar, au Zimbabwe, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Togo et en Côte d'Ivoire. Alors, avant de donner la parole à notre première auditrice, nous allons écouter un extrait d'un reportage fait par notre correspondant Kassim Traoré au Mali.
Comme la majorité des Maliens, le président Ibeka reconnaît qu'il n'y a pas eu de progrès majeur en 2018 à cause de la crise multiforme que traverse le Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
L'année 2018 aurait été marquée par des antagonismes divers, des défis multiples, qu'il s'agisse de ceux sécuritaires au nord du pays, ceux de la mise en œuvre des réformes institutionnelles ou de la forte demande sociale, des nécessaires besoins de cohésion sociale qui demeurent des défis à relever et autant d'attentes à satisfaire.
Alors nous avons une première auditrice, il s'agit de Mariam Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. On a pu entendre votre président Ibeka donner un peu son avis sur 2018 avec les progrès à faire et les difficultés dues notamment au groupe terroriste. Vous, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous retenez de 2018?
2018, je retiens beaucoup de choses, mais en particulier l'élection présidentielle au Mali. Il y a eu plus de peur que de mal au Mali lors des élections.
Pourquoi?
Par exemple, beaucoup de gens s'inquiétaient. Moi, par exemple, dans le domaine où je suis, je travaille beaucoup avec les expatriés, les Blancs, les étrangers. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire « Mariam, on préfère rentrer chez nous parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir des élections ». Ou sinon, d'autres me disent, je vais envoyer ma famille et je ne sais pas ce qui va en sortir. Donc, heureusement, il y a eu des hits, mais bon, Dieu merci, ça s'est bien passé après. Les gens ont compris et le président, il a été investi. Et Dieu merci, on est en train de travailler.
Alors, merci beaucoup d'avoir donné votre avis. Est-ce que vous êtes quand même optimiste pour 2019?
Oui, très optimiste. 2019, je pense que les choses vont s'améliorer par rapport à 2018.
Alors, on va suivre ça de très près. On vous remercie d'avoir appelé. On vous souhaite encore une excellente année 2019.
Merci.
On va donner la parole à un autre auditeur fidèle qui est au Mali depuis son village de Sonikeni. Bonsoir, Djara Kanyoumé.
Oui, bonsoir, Etia. Bonsoir à toutes les rédactions de VOA Afrique. Meilleur vœu 2019 à toutes les rédactions et aux millions des auditeurs de VOA Afrique.
Merci. Donc, on se rappelle que 2018 pour vous était une année avec votre mariage dont on a beaucoup parlé en début d'année dernière. Et qu'est-ce que vous retenez d'autre pour l'année 2018 au Mali?
Oui, effectivement. Bon, à mon avis, je pense que je ne parlais pas dans mon pays seulement. Je parlais partout les pays africains. Donc, je pense que vraiment, l'événement que j'ai pu remarquer en Afrique d'aujourd'hui, vraiment, affaire des terroristes avec la crise politique, vraiment avec la crise migratoire, je pense que vraiment ça a eu, pour moi, c'est beaucoup en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique centrale. Vous pouvez imaginer qu'en Afrique, nos dirigeants africains, vraiment, et leur politique, ça a pris nos peuples africains parce que leur politique, c'est très, très, très exemple. Et doit prendre exemple comme le dirigeant africain. Donc, c'est ça qui fatigue avec le peuple africain. Et puis, encore, les crises migratoires, il y a plusieurs jeunes diplômés, sans emploi, qui prennent vers direction Méditerranée et restent au moins dans la mer. Je pense que vraiment, c'est les difficultés les plus remarquées en Afrique d'aujourd'hui, que ça nous fait perdre aujourd'hui, à mon avis, etc. Donc, il faut que les dirigeants africains aient changé leur politique pour créer beaucoup d'emplois, pour que les jeunes africains aient resté leur pays, pour que au moins l'accident des mers méditerranéennes avec au moins les autres pays, ça doit diminuer. Donc j'ai remarqué aussi qu'aujourd'hui tout le monde est regardé au moins ces RDT comme un écrasant par rapport à la crise politique. Il faut imaginer, il y a d'autres, ils ont voté au moins le 23 décembre, d'autres aussi, ils ont voté au moins le 30 décembre, donc je pense que vraiment, c'est pas normal. Dans un tel pays, comment ils vont diviser au moins les votes? Donc, c'est pas normal. Il faut imaginer que les dirigeants africains, surtout Joseph Kabila, lui, il veut rester toujours au pays. Donc, je sais que nos dirigeants africains, avec eux aussi, au Mali, les Ibeka parlent, je pense qu'il a bien parlé, mais il faut imaginer. Au nord du pays, il y a beaucoup de problèmes, donc on doit trouver solution à ça rapidement pour que les nordistes maliens doivent trouver la paix d'aujourd'hui, à mon avis, etc.
Merci beaucoup, Djaraka Niumé. On souhaite donc beaucoup plus de paix et d'union au Mali. Avant que nous puissions recevoir notre prochain auditeur, donc on rappelle également que année élective, année électorale, et beaucoup de commentaires d'auditeurs de République démocratique du Congo. Donc beaucoup ont émis une immense fierté avec le prix Nobel de Denis Mukwege, et beaucoup aussi ont parlé des problèmes pour les élections, pour les votes, avec le virus Ebola. Que retient notre prochain auditeur qui s'appelle Moïse Mouroula Roubenga? Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Vers Afrique, bonsoir Merve pour tous les auditeurs africains de la Vers Afrique, en particulier les et les meilleurs pour tous les Congolais qui attendent impatiemment les résultats des élections présidentielles.
Donc merci d'avoir participé à l'émission. Alors pour vous, que vous retenez-vous de 2018? Est-ce que vous avez voté récemment? Est-ce que vous êtes optimiste pour 2019?
Alors, bel et bien, l'année 2018 a été une année de toutes les attentes parce que nous étions en train d'attendre les élections à la fin de l'année. La campagne s'est passée. Nous avions vu tout un peuple mobilisé. Bon, je vais dire que pendant cette période, nous avions vu évidemment que le peuple congolais a soif d'un changement et la mobilisation a été certaine. Alors, nous avions pu voter certainement cette année qui venait de s'écouler et nous attendons bel et bien les résultats des élections présidentielles. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Nous sommes en train de nous demander qu'est-ce qui va devoir se passer si demain on proclamait notre candidat à part celui qui est attendu par la population, par la grande partie de la population. Néanmoins, nous pensons, nous comptons sur la bonne volonté de nos dirigeants qui vont cette fois faire une bonne année 2019, contrairement aux années 2017 et 2018 où on attendait la Sénat.
Alors ce candidat, je ne sais pas si vous avez envie de le souhaiter, en tout cas sur la toile, beaucoup de personnes citent M. Fayoulou, certains donc l'appellent notre Barack Obama, c'est le cas de Kasereka Chabucha, Robert Silva lui qui explique que le fait marquant dans son pays, donc la RDC, est l'élection chaotique qui n'a jamais été aussi mal organisée selon lui, et vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire comme dernier mot?
Oui, le peuple, dans sa grande majorité, il faut noter que nous avions voyagé à travers les pays, et c'est seulement dans les deux Kasaï où Félix est largement en tête, mais on voit que dans l'ensemble du
Félix
pays,
Marcel
Fayoulou, c'est le candidat beaucoup attendu. Nous pensons que c'est le candidat qui sera peut-être proclamé si les élections sont bel et bien transparentes. Et nous souhaitons que ce soit le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, doit se dépasser et mettre les intérêts de la population au-dessus des intérêts individuels.
Merci beaucoup Moïse d'avoir participé. Beaucoup d'auditeurs également de la Centrafrique ont écrit des commentaires. Ils ont été très touchés par certains massacres, celui notamment d'Aline Dao. En RCA, justement, le président centrafricain en décembre dernier, Faustin Archange Touadéra, a limogé son ministre des Affaires étrangères en poste depuis 2016. Il s'agit de Charles Armel Douban et l'a remplacé par une femme, Sylvie Baipo-Témon, analyste financière. Il n'avait pas Assister à Bangui au défilé du 1er décembre, célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance de son pays. Ancienne puissance coloniale, à l'appel du cardinal Dieudonné Nzapalianga, j'espère que je prononce bien, qui avait demandé de se tenir vraiment silencieux et d'être solidaire aux familles endeuillées. Et il y a également eu en RCA beaucoup de rebondissements, avec notamment le transfèrement de plusieurs personnalités anti-Balaka. C'est donc avec notre prochain auditeur que nous allons pouvoir en parler. Il s'agit de Désiré Batangombe. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous travaillez avec le bureau, l'association des Centrafricains des États-Unis. Et vous, quel est votre regard sur l'actualité centrafricaine en 2018?
Oui, évidemment, nous avons une crise en République centrafricaine où il y a eu plusieurs cas de décès, d'assassinats, pillage du pays. La crise en Centrafrique est très profonde. Et nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour la sortie de la crise. Et je pense que la voie de la justice est la mieux pour moi, la mieux adaptée. Ce qui veut dire que transférer les responsables des anti-Balaka à la CPI pour qu'ils soient jugés est une bonne chose pour moi. Et le problème qui se pose, c'est qu'il ne faut pas que ça soit comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, où ce n'est qu'un seul camp qui est transféré à la CPI pour être jugé.
Et justement, il y a eu de nombreux auditeurs qui ont écrit en disant justement que c'était une justice deux poids deux mesures. Qu'est-ce qui vous fait rester optimiste pour pouvoir continuer d'être optimiste comme vous semblez l'être par rapport à ces deux transferments?
Ce qui me fait garder sur la ligne de l'optimisme, c'est que je crois en la justice et je crois que le cas de la Côte d'Ivoire actuelle va vraiment inspirer le bureau de la procureure, Mme Bensouda, de changer un peu de tactique. Au lieu d'arrêter de transférer à la CP uniquement les responsables anti-Balaka, il faut en faire de même pour le Séléka, parce que il faut savoir que c'est la Séléka qui a commencé la crise en Centrafrique et les anti-Balaka sont nés des exactions commises par les Séléka sur l'étendue, sur toutes les étendues du territoire centrafricain. Donc en amenant ces deux camps devant la justice pour les juger, en jugeant tous ces bourreaux, les victimes de la crise centrafricaine vont quand même recevoir la justice et vont se dire « Oh, ok, il est temps pour nous de pardonner puisque nos bourreaux sont déjà devant la justice. Beaucoup seront peut-être reconnus coupables et gardés en prison. » Les victimes vont commencer maintenant à chercher à se pardonner entre elles-mêmes et à faire la paix, à faire la réconciliation. Donc pour moi, c'est une voie normale et la meilleure actuelle pour aller réconcilier les Centrafricains. L'amnistie n'est pas la bonne chose. Je sais que la France, le Tchad et l'Union africaine sont en train de pousser pour qu'on puisse amnistier, mais je ne crois pas que ce soit la bonne chose. Il faut qu'il y ait justice enfin pour que l'impunité cesse en Centrafrique et que la crise en Centrafrique prenne fin pour de bon, quoi.
Merci beaucoup, Désiré, d'avoir participé à l'émission. On retient, l'amnistie n'est pas une bonne chose. Et dans plusieurs pays voisins, l'amnistie a été de mise. Ça a été le cas, par exemple, au Tchad, où lundi, une soixantaine de personnes ont été libérées. Et qu'en pense notre prochain auditeur? Donc, ce sont des prisonniers politiques. C'est donc la décision du président Idriss Déby en faveur d'ex-rebelles. Donc, il s'agit de 37 prisonniers qui étaient détenus au bagne de Korokoro, situé dans le nord désertique tchadien. 4 venaient de Moussoro, et 3 à 300 km au nord de la capitale, et 17 autres étaient incarcérés à N'Djamena. Qu'en pense notre prochain auditeur, Archiduc Théodore? Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous, quel est votre avis sur cette actualité, cette amnistie? Est-ce que c'est un geste qui vous parle, qui vous touche, ou pas nécessairement?
Moi, c'est un geste initial ne me touche pas parce que c'est une libération sélective. Il y a certains prisonniers, comme l'opposant politique, l'ex-rebelle Babalade, qui actuellement courpille. Et ce sont de telles personnes qu'il est aussi nécessaire de libérer. Mais si c'est quelques têtes des personnes qui généralement ne sont pas vraiment affichées, que l'on fait semblant de libérer sur le dos de l'amnistie, pour moi, est une certaine face qui s'affiche. Quand on parle de l'amnistie, il faudrait que ça soit national, il faudrait qu'on libère tout le monde, il faudrait que tout le monde, de par cette libération, soit au même pied d'égalité.
Alors on retient ça, au même pied d'égalité, et un événement heureux a lieu encore jusqu'à demain, donc le Festival d'Art. Est-ce que c'est une initiative qui vous a plu ou auquel vous avez participé ou entendu parler?
Je suis vraiment déçu par ce festival. Pour moi, c'est un festival que... Ça fait partie des festivals que je déteste. Puisque pour moi, lorsqu'un festival culturel est tchadien, on devait impliquer les tchadiens. Ça m'étonne vraiment qu'on fait venir des étrangers, à l'exemple de Dadou, qui est venu de la France.
De France, tout à fait.
Et qu'on ne donne pas assez de cachets aux artistes locaux. Alors que le Tchad, les gosses, une multitude des artistes
tout à fait.
Dont il est nécessaire d'encourager. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est loin parce que le gouvernement ivoirien encourage les artistes ivoiriens. Alors, si le gouvernement ivoirien peut encourager les artistes ivoiriens et faire recours aux artistes extérieurs pour venir faire l'interprétation, pour moi, c'est un peu que des pourris.
En tout cas, votre message est passé, mais notons quand même qu'hier, il y avait en tête d'affiche le groupe Afrotronic, c'est quand même un tchadien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à l'émission, je ne vous entends plus. Amnesty, nous en parlions, Amnesty également au Cameroun où près de 200 personnes ont été libérées, certaines personnes même liées à la crise anglophone tant combattue hein, par le gouvernement. Alors nous allons écouter quelques mots du président Paul Biya avec un bout de reportage notre correspondant Jules Ntap.
Le ton grave, la parole accompagnée de la gestuelle. Le président Paul Biya n'a pas fait l'économie de l'option militaire pour amener la sécurité et la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise dite anglophone.
Si l'appel à déposer les armes que j'ai lancées aux entrepreneurs de guerre reste sans réponse, les forces de défense et de sécurité recevront instruction de les neutraliser. Je suis bien conscient, en effet, de la désolation que ces insurgés infligent aux populations de ces régions. Cette situation ne peut plus durer.
Alors, notons que les élections au Cameroun sont toutes récentes et elles ont donné lieu, après le retour des résultats, à plusieurs mouvements, dont le mouvement anti-Sardinard et aussi un mouvement opposé. Alors, anti-Sardinard, pourquoi? Car on accuse beaucoup les personnes d'être proches du gouvernement, d'être des Sardinards. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des manifestations au Cameroun, il y a du pain et des sardines qui sont offerts, donc d'où ce terme anti-sardinard et anti-tontinard, parce qu'on accuse les personnes de l'autre camp d'être des tontinards parce que beaucoup sont bamilékés, comme le Maurice Kanto qui a été désigné par une autre partie de la population comme le président de la République. D'ailleurs, monsieur Maurice Kanto a tenu un discours et nous avons en ligne une personne qui s'appelle Guy et qui fait partie de ce mouvement anti-sardinard. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous, face à la situation au Cameroun, l'année 2018, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que c'est une année positive ou non pour vous?
Non, c'est pas seulement l'année 2018 qui est une année très négative, parce que je ne peux pas parler de positivité. Vu le nombre de morts liées aux attentats, aux multiples attentats liés à Boko Haram dans le nord Cameroun, et depuis 2 ans, celles liées au nord-ouest et au sud-ouest Cameroun. Vu tout ceci dû non au mal fonctionnement et non fonctionnement de l'État jusqu'à aujourd'hui. Parce que hier, j'écoutais le discours de notre président, si je peux l'appeler comme ça, et même pas une minute, il a daigné adresser des mots de condoléances aux familles des victimes disparues durant toutes ces années. Et
alors...
je pense que... On ne peut pas parler d'amnistie,
oui.
Parce que c'est une décision unilatérale. Parce qu'à aucun moment, parce que quand on parle d'amnistie, ça veut dire qu'on appelle des personnes neutres qui organisent des pourparlers, mais il n'y a pas eu de pourparlers.
Alors, une grâce, si vous préférez, peut-être dire une grâce. Mais que pensez-vous du Cameroun? Ce qui se passe en ce moment est assez triste, puisqu'on voit vraiment sur la toile d'énormes propos, des propos racistes de plusieurs personnes d'un même pays, mais étant d'ethnies différentes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'on vire vers un tribalisme quelconque?
Tout à fait. Et ceci a été alimenté par des personnes qui s'accrochent au pouvoir et qui pensent qu'il faut diviser, et c'est ça le thème, diviser pour mieux régner, parce que dans la division, ils pourront continuer à piller.
Mais les insultes viennent de tous côtés, hein. Ça ne vient pas uniquement du parti au pouvoir. Qu'est-ce qui peut être fait pour que les choses puissent changer?
Non, quand je regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, il n'entraîne que ça. Parce que si aujourd'hui, on se retrouve déjà indexé dans un pays où on appartient totalement, on est toujours. D'autres personnes se trouvent indexées parce que la crise au nord ou au sud-ouest, ce n'est que la preuve de ça. Parce que ces personnes se sont toujours senties à part. Ils se sont sentis jamais Camerounais à part entière. Donc, ce qui fait que c'est cette colère-là qui s'est levée aujourd'hui et qui dit, ils disent non à tout ça. Ils disent non à cette mise à part du peuple camerounais, en fait, du gouvernement en place. Parce qu'ils se sentent mis à part. C'est pour ça qu'il y a cette colère-là.
Alors, dans
aujourd'hui,
son discours.
Les solutions à trouver, c'est déjà pas prendre des décisions unilatérales comme celle qui est prise par le président de la République, mais essayer de trouver des compromis, des pourparlers. Parce que les personnes revendiquent des choses. Il faut les écouter, il faut les entendre, il faut créer une commission de pourparlers. Pas dire à mes styles, mais si ça ne sert à rien, parce que ces 289 personnes qu'on a libérées, ils ne faisaient pas partie de la crise anglophone. Hein. Ils ne faisaient pas partie. Il y a quelques-uns qui faisaient partie, mais pas tous. Hein. Donc on fait croire aux gens que les 280, il y a plus de 1500 personnes qui sont arrêtées. On libère 289. Et on fait croire aux gens qu'on a une main tendue, on n'a pas de main tendue.
Merci
beaucoup,
Guy. Le problème
aujourd'hui, c'est qu'il faut s'asseoir, créer une commission de pourparlers et les deux parties se réunissent, des parties neutres, des personnes neutres se réunissent et pouvoir trouver des points communs et sortir de la crise.
Merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue, Guy. Vous êtes du mouvement anti-Sardinard. Alors, agitation anglophone au Cameroun. Hein. Dans son discours de fin d'année, le président Paul Biya hausse le ton et menace de réprimer par la force le soulèvement des séparatistes dans les régions anglophones si ces derniers refusent de déposer les armes. Nous avons encore un auditeur qui est au Cameroun. Nous allons lui donner la parole. Il s'agit d'Alphonse Boaki. Bonsoir. Bonne année.
Bonne année à vous tout le temps, madame. Merci vraiment, très gentil.
Alors, on a vu qu'il y avait eu des problèmes de coupure de courant au Cameroun. Est-ce que vous en avez été victime? Comment vous avez vu cette année 2018 défiler?
Vous savez, sur le plan plan continental, vous savez, c'était une année électorale. Vous l'avez souligné, puis là-bas, des élections qui sont, la plupart des élections sont débouchées sur des contestations électorales, notamment au Mali, au Zimbabwe, mais au Cameroun. Mais une élection qui m'a beaucoup émerveillé, c'est celle qui s'est déroulée au Libéria, où une star, où quelqu'un qui est sorti d'une petite classe est devenu star de football, ancien baladeur, a été vainqueur. Une élection bien organisée. Et ici, seulement en aire de commun, nous attendons des histoires, on a encore d'autres monde, mais il y a eu trop de couacs durant cette élection, beaucoup d'irrégularités. Nous pensons que si les choses ne sont pas bien faites, cela risque de des contestations violentes post-électorales. Mais espérons que Corneille Nangaa, le président, va bien faire les choses. Et puis encore un grand événement qui a marqué 2018,
c'est déjà la fin, malheureusement, Alphonse Boaki. C'est déjà la fin. Vous souhaitez une une excellente année. Vous étiez donc à Kinshasa. Merci également à Thierry Achikiye, qu'on n'a pas pu entendre, qui était à Bujumbura. Nous espérons l'avoir dans une prochaine émission. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, à Cheikh Chiro. Dans quelques instants, une nouvelle édition Le Monde aujourd'hui, présentée par Nathalie Barge. Et toutes nos émissions, vous pouvez les retrouver sur notre site voafrique.com.